Chapitre 49. Ce que vous, administrateurs de la chaume, semblez incapables de comprendre, c'est que les loyautés réelles ne se rencontrent que rarement dans le commerce. Depuis quand avez-vous entendu dire qu'un employé avait donné sa vie pour la compagnie? Votre faiblesse réside peut-être dans le fait que vous supposez faussement qu'il est possible d'ordonner aux hommes de penser et de coopérer. Cela, au cours de l'histoire, a entraîné la faillite des religions comme celle des états-majors. Les états-majors sont bien connus pour avoir ruiné leur propre nation. Quant aux religions, je vous recommande de relire Thomas d'Aquin. Quant à vous, la chaume, à quelles absurdités ne croyez-vous pas? Les hommes doivent désirer accomplir des choses en accord avec leurs pulsions profondes. Ce sont les gens et non les organisations commerciales ou les hiérarchies qui font la réussite des grandes civilisations. Chaque civilisation dépend de la qualité des individus qu'elle produit. Si vous surorganisez les humains, si vous les surlégalisez, si vous supprimez leur élan vers la grandeur, alors ils ne peuvent œuvrer et les civilisations s'effondrent. Une lettre à la chaume, attribuée au prêcheur. Leto sortit de sa transe par une transition douce qui l'amena d'un état de conscience à un autre sans que la différence fût nettement perceptible. Il sut où il se trouvait. L'énergie jaillit en lui, mais en même temps la pestilence mortelle de l'air vicié de la tente d'Istille lui transmit un autre message. S'il refusait de se mouvoir, il savait qu'il demeurerait pris dans la trame intemporelle de l'éternel maintenant, où tous les événements coexistaient. Cette perspective l'attirait. Il percevait le temps comme une convention façonnée par l'esprit collectif de tous les êtres pensants. Le temps et l'espace étaient des catégories imposées à l'univers par son esprit. Il n'avait qu'à se libérer de cette multiplicité où l'attiraient ses visions prescientes. Un choix audacieux pouvait changer les avenirs provisoires. Quelle audace exigeait ce moment? La transe l'avait pris à son piège. Il avait quitté le Alam al-Mithal pour l'univers de la réalité, et il ne voyait pas la différence. Il voulait que persiste la magie Riani de cette révélation. Mais sa survie appelait une décision. Son appétit inassouvi pour l'existence réveilla ses nerfs. Brusquement, il tendit la main droite et agrippa l'outil statique. Puis il roula sur le ventre et ouvrit le sphincter de la tente. Un ruisseau de sable se déversa sur sa main. Il était dans les ténèbres, prisonnier de l'atmosphère fétide, et il se mit au travail avec frénésie, creusant vers le haut. Il progressa sur une distance qui devait être de 6 fois sa hauteur, avant de retrouver la nuit et l'air frais. Il émergea sur le flanc d'une longue dune courbe, aux 2/3 de sa hauteur, sous la clarté de la seconde lune. Il demeura immobile, regardant le disque brillant qui disparut bientôt derrière la dune. Son regard erra entre les étoiles, s'arrêta sur la constellation du Vagabond, puis découvrit à l'extrémité du bras le phare perçant de Ful al-Hut, l'étoile polaire du sud. « Le voilà ton satané univers, » se dit-il. Vu de près, c'était un lieu de turbulence, pareil au sable qui le cernait, un lieu de transformation, l'unique recouvrant l'unique. Vu de loin, seules les grandes structures apparaissaient, et elles incitaient à croire aux absolus, ces structures. Mais dans les absolus, songea-t-il, nous nous perdrons. Cela lui rappela l'ancien avertissement contenu dans un dicton Fremen, qui se perd dans le Tanzeruft perd la vie. Les structures pouvaient guider, mais elles pouvaient aussi piéger. Il ne fallait pas oublier qu'elles étaient soumises au changement, elles aussi. Il prit une profonde inspiration et se mit en action. Plongeant à nouveau sous la dune, il replia la tente, la ramena en surface et refit son fremkit. L'aube approchait. L'horizon d'Orient était comme le fond d'un verre de vin. Leto assura le paquet sur son épaule, escalada la dune jusqu'à la crête et se tint un instant immobile dans l'air glacé et piquant, jusqu'à ce que le soleil enfin effleure sa joue d'une caresse tiède. Il prit alors de la teinture dans un sac et s'en enduisit les orbites afin de diminuer la réflexion. La lumière serait bientôt éblouissante. Il savait à présent qu'il devait aimer ce désert et non le combattre. Quand il eut rangé la teinture dans son sac, il aspira quelques gouttes d'eau à l'un des tubes de son distille, puis de l'air. Il se laissa tomber dans le sable et examina attentivement le distille. Il arriva aux pompes placées dans les talons. Elles avaient été habilement coupées avec un couteau aiguille. Il ôta son distille et entreprit de réparer, mais le mal était fait. Plus de la moitié de l'eau de son corps était perdue. Sans le distille de la tente. Tout en travaillant, il réfléchissait et s'interrogeait. Il était bizarre qu'il n'ait pas su prévoir cela. Le danger de l'avenir sans vision était évident, soudain. Il s'accroupit au sommet de la dune, épousant la solitude de ce lieu. Son regard erra sur le désert, guettant un souffle, une irrégularité dans les vagues de sable qui révéleraient la présence de l'épice ou le passage du ver. Mais la tempête avait apposé son sceau d'uniformité sur le paysage. Leto prit alors un marteleur, l'arma et le mit en marche. Il s'éloigna et attendit la venue de Shai Hulud. Il fut long à venir. Il l'entendit avant de l'apercevoir. Il arrivait de l'est. Là-bas, l'air vibrait sous l'effet du séisme mouvant. Puis la gueule du ver surgit au-dessus du sable en un éclair orange. Dans un énorme sifflement de poussière qui obscurcit ses flancs, le ver jaillit des profondeurs. La muraille grise passa à côté de Leto et il lança ses hameçons et escalada rapidement le flanc du monstre. Très vite, il l'orienta vers le sud. Stimulé par les hameçons, le ver prit de la vitesse. La robe de Leto claqua dans le vent violent, et ce fut comme si l'excitation de sa gigantesque monture gagnait Leto, comme si un courant intense de création jaillissait de ses reins. Chaque planète, se souvint-il, avait sa période, de même que chaque vie. Le ver était du genre que les Fremen appelaient « grondeur ». Il plongeait fréquemment dans le sable, enfouissant brièvement ses anneaux avant, tandis que sa queue continuait de pousser. Ce qui produisait des grondements sourds, tandis qu'une partie de son corps formait une grande bosse au-dessus du sable. Mais il était rapide. Quand le vent se mit à souffler dans le sens de leur marche, Leto sentit la chaleur de la fournaise que le ver faisait naître dans son sillage, et des odeurs acides parvinrent à ses narines dans le flot d'oxygène. Il laissa son esprit courir librement, tandis qu'ils accompagnaient le vent vers le sud. Il s'efforça de penser à ce voyage comme à une nouvelle cérémonie dans sa vie, une cérémonie qui lui évitait de songer au prix qu'il lui faudrait payer pour son sentier d'or. Tout comme les vieux Fremen, il savait qu'il lui faudrait bien des cérémonies pour éviter que sa personnalité ne se divise en fragments de mémoire, pour maintenir aux abois les chasseurs avides de son âme. Des images contradictoires, qui jamais ne seraient unifiées, devaient désormais rester enkystées dans une vivante tension. Une force polarisante qui l'animait de l'intérieur. La nouveauté, constamment, se dit-il. Il me faut constamment découvrir de nouveaux fils hors de ma vision. Au début de l'après-midi, son attention fut attirée par une protubérance, en avant et un peu sur la droite. Lentement, cela devint une butte étroite, une saillie rocheuse, exactement là où il s'était attendu à la trouver. « Maintenant, Namri. Maintenant, Sabiha. Voyons comment vos frères apprécient ma présence, » songea-t-il. Le fil dont il s'approchait était ténu, plus redoutable par ses attraits que par ses menaces évidentes. Il fallut très longtemps avant que la butte change de dimension. Et pendant une courte période, elle parut même venir à leur rencontre plutôt qu'il ne semblait s'approcher d'elle. Le ver, fatigué, obliquait sans cesse sur la gauche. Leto se laissa glisser sur le flanc du géant pour modifier la position des hameçons et maintint sa monture en droite ligne. Il perçut alors le parfum vif du mélange. Ils approchaient d'une veine riche. Ils passèrent au milieu des taches lépreuses de sable violet qui révélaient une éruption d'épices, et Leto maintint fermement le ver jusqu'à ce qu'ils aient dépassé le gisement. La senteur de cannelle les accompagna longtemps après que Leto eut corrigé la course du ver, le dirigeant droit sur la butte qui n'en finissait pas d'émerger à l'horizon. Brusquement, il y eut un clignotement de couleur au sud du bled, un signal d'arc-en-ciel produit par un artefact humain au cœur de l'immensité. Leto prit ses jumelles, régla les objectifs à huile et distingua au loin les larges ailes d'un chercheur d'épices qui scintillait dans le soleil. Tout près, une grosse moissonneuse ressemblait à une chrysalide sur le point de s'éveiller. Leto reposa ses jumelles et la moissonneuse redevint un point minuscule. Il fut alors envahi par l'Ad-Dab, l'immense omniprésence du désert. Par elle, il sut comment les chasseurs d'épices le verraient, lui, objet noir entre ciel et désert, symbole frémène de l'homme. Il ne pourrait manquer de le voir et il serait sur leur garde. Il l'attendrait. Les frémen étaient toujours soupçonneux envers celui qui surgissait du désert, jusqu'à ce qu'il l'ait reconnu ou qu'il se soit assuré qu'il ne représentait aucune menace. Même s'ils avaient tiré une mince patine de la civilisation de l'Impérium et de ses usages sophistiqués, ils demeuraient des sauvages à demi apprivoisés, qui n'avaient pas oublié qu'un Chris se dissolvait à la mort de son possesseur. « C'est ce qui peut nous sauver, » pensa Leto. « Ce caractère sauvage. »